Armance, suite 4.
Chapitre 10. Oh, conoscenza, non è senza il suo perché che il fedel prete ti chiamò. Il più grande dei mali, egli era tutto disturbato, e però non dubitava ancora, al più, dubitava di esser presto sul punto di dubitare. Oh, conoscenza, tu sei fatale a quelli nei quali l'oprar segue da vicino il credo. Il cardinal Gerdil.
Faut-il dire qu'Octave fut fidèle à sa promesse? Il abandonna des plaisirs proscrits par Armance. Le besoin d'agir et le désir d'observer des choses nouvelles l'avaient poussé à voir la mauvaise compagnie, souvent moins ennuyeuse que la bonne. Dès qu'il était heureux, une sorte d'instinct le portait à se mêler avec les hommes. Il voulait les dominer. Pour la première fois, Octave avait entrevu l'ennui des manières trop parfaites et des excès de la froide politesse. Le mauvais ton permet de parler de soi, à tort et à travers, et l'on est moins isolé. Lorsqu'on a servi du punch dans ces brillants salons de l'extrémité de la rue de Richelieu, que les étrangers prennent pour la bonne compagnie, on n'a pas cette sensation. Je suis ici dans un désert d'hommes. Au contraire, on peut se croire 20 amis intimes dont on ne sait pas le nom. Oserons-nous le dire au risque de compromettre à la fois et nous et notre héros? Octave regretta quelques-uns de ses compagnons de souper. La partie de sa vie qui s'était écoulée avant son intimité avec les habitants de l'hôtel de Bonnivet commençait à lui paraître folle et entachée de duperie. Il pleuvait, se disait-il dans ses façons de penser originales et vives. Au lieu de prendre un parapluie, je m'irritais follement contre l'état du ciel, et dans des moments d'enthousiasme pour le beau et le juste, qui n'étaient au fond que des accès de folie, je m'imaginais que la pluie tombait exprès pour me jouer un mauvais tour. Charmé de pouvoir parler à mademoiselle de Zoïloff des observations qu'il avait faites, comme un autre Philibert dans de certains bals fort élégants. « J'y trouvais un peu d'imprévu, » lui disait-il. « Je ne suis plus si content de cette bonne compagnie par excellence que j'ai tant aimée. Il me semble que sous des mots adroits, elle proscrit toute énergie, toute originalité. Si l'on est copie, elle vous accuse de mauvaise manière. Et puis la bonne compagnie usurpe. » Elle avait autrefois le privilège de juger de ce qui est bien, mais depuis qu'elle se croit attaquée, elle condamne, non plus ce qui est grossier et désagréable sans compensation, mais ce qu'elle croit nuisible à ses intérêts. Armance écoutait froidement son cousin. Elle lui dit enfin « De ce que vous pensez aujourd'hui au jacobinisme, il n'y a qu'un pas. J'en serais au désespoir. » reprit vivement Octave. « Au désespoir de quoi? De connaître la vérité ?» dit Armance. « Car apparemment, vous ne vous laisseriez pas convertir par une doctrine entachée de fausseté. » Pendant tout le reste de la soirée, Octave ne put s'empêcher de paraître rêveur. Depuis qu'il voyait un peu plus la société telle qu'elle est, Octave commençait à soupçonner que Madame de Bonnivet, avec la prétention suprême de ne songer jamais au monde et de mépriser les succès, était l'esclave d'une ambition sans bornes. Certaines calomnies des ennemis de la marquise, que le hasard avait portées jusqu'à lui et qui lui paraissaient le comble de l'horreur, quelques mois auparavant, ne furent plus à ses yeux que des exagérations perfides ou de mauvais goût. « Ma belle cousine n'est point satisfaite, » se disait-il, « d'une naissance illustre, d'une fortune immense, la grande existence que lui assure sa conduite irréprochable, la prudence de son esprit, sa bienfaisance savante, est peut-être pour elle un moyen, et non pas un but. » Madame de Bonnivet a besoin de pouvoir, mais elle est fort délicate sur l'espèce de ce pouvoir. Les respects qu'on obtient par le grand état dans le monde, par le crédit à la cour, par tous les avantages que l'on peut réunir dans une monarchie, ne sont plus rien pour elle. Elle en jouit depuis trop longtemps, il l'ennuie. Quand on est roi, que peut-il manquer ? D'être Dieu. Elle est blasée sur les plaisirs donnés par les respects des intérêts. Il lui faut les respects du cœur. Elle a besoin de la sensation qu'éprouve Mahomet quand il parle à Séide. Et il me semble que j'ai été fort près de l'honneur d'être Séide. Ma belle cousine ne peut remplir sa vie avec la sensibilité qui lui manque. Il lui faut, non pas des illusions touchantes ou sublimes, non pas le dévouement et la passion d'un seul homme, mais se voir regarder comme une prophétesse par une foule d'adeptes, et surtout, si l'un d'eux se révolte, pouvoir le briser à l'instant. Elle a trop de positif dans le caractère pour se contenter d'illusions. Il lui faut la réalité de la puissance. Et si je continue à lui parler à cœur ouvert sur bien des choses, un jour, ce pouvoir absolu pourra s'exercer à mes dépens. Il ne se peut pas qu'elle ne soit bientôt assiégée par des lettres anonymes. On lui reprochera mes visites trop fréquentes. La duchesse d'Ancre, piquée de mes négligences pour son salon, se permettra peut-être de la calomnie directe. Ma faveur ne peut résister à ce double danger. Bientôt, en gardant soigneusement tous les dehors de l'amitié la plus empressée et en m'accablant de reproches sur la rareté de mes visites, Madame de Bonnivet me mettrait dans la nécessité de les rendre fort rares. Par exemple, j'ai l'air d'être à demi convertie au mysticisme allemand. Elle me demandera quelques démarches publiques et par trop ridicules. Si je m'y soumets par amitié pour Armance, bientôt l'on me proposera quelque chose de tout à fait impossible.
Chapitre 11. Somewhat light as air, there's language in her eye, her cheek, her lip, nay, her foot speaks. Her wanton spirits look out at every joint and motive of her body. Oh, these encounterers, so glib of tongue, that give a costing welcome ere it comes. Troilus and Cressida, Act 4.
Chapitre 11. Il était peu de salons agréables appartenant à la société, qui, trois fois par an, va chez le roi, dans lesquels Octave ne fut admis et fêté. Il remarqua la célébrité de Madame la Comtesse d'Aumale. C'était la coquette la plus brillante et peut-être la plus spirituelle de l'époque. Un étranger de mauvaise humeur a dit que les femmes de la haute société en France ont un peu le tour d'esprit d'un vieil ambassadeur. C'était le caractère de l'enfance qui brillait dans les manières de Madame d'Aumale, la naïveté de ses reparties et la gaieté folle de ses actions, toujours inspirées par la circonstance du moment, faisait le désespoir de ses rivales. Elle avait des caprices d'un imprévu admirable. Et comment imiter un caprice ? Le naturel et l'imprévu n'étaient point la partie brillante de la conduite d'Octave. C'était un être tout mystère. Jamais d'étourderie chez lui, si ce n'est quelquefois dans ses conversations avec Armance. Mais il lui fallait la certitude de n'être pas interrompu à l'improviste. On ne pouvait lui reprocher de la fausseté. Il eût dédaigné de mentir, mais jamais il n'allait directement à son but. Octave prit à son service un valet de pied qui sortait de chez Madame d'Aumale. Cet homme, ancien soldat, était intéressé et très fin. Octave le faisait monter à cheval avec lui dans de grandes promenades de 7 à 8 lieues qu'il faisait dans les bois qui entourent Paris, et il y avait des moments d'ennui apparents où il lui permettait de parler. En moins de quelques semaines, Octave eut les renseignements les plus certains sur la conduite de Madame d'Aumale. Cette jeune femme, qui s'était fort compromise par une étourderie sans bornes, méritait réellement toute l'estime que quelques personnes ne lui accordaient plus. Octave calcula la quantité de temps et de soins que lui prendrait la société de Madame d'Aumale, et il espéra, sans trop se gêner, pouvoir passer bientôt pour amoureux de cette femme brillante. Il arrangea si bien les choses que ce fut Madame de Bonnivet elle-même qui, au milieu d'une fête qu'elle donnait à son château d'Andilly, le présenta à Madame d'Aumale. Et la manière fut pittoresque et frappante pour l'étourderie de la jeune comtesse. Dans le dessein d'égayer une promenade que l'on faisait, de nuit, sous les bois charmants qui couronnent les hauteurs d'Andilly, Octave parut tout à coup déguisé en magicien et éclairé par des feux de Bengale adroitement cachés derrière le tronc de quelques vieux arbres. Octave était fort beau ce soir-là, et Madame de Bonnivet, sans s'en douter, parlait de lui avec une sorte d'exaltation. Moins d'un mois après cette première entrevue, on commença à dire que le vicomte de Malivert avait succédé à M. de R. et à tant d'autres dans l'emploi d'ami intime de Madame d'Aumale. Cette femme si légère, que ni elle-même ni personne ne savait jamais ce qu'elle ferait le quart d'heure d'après, avait remarqué que la pendule d'un salon, en sonnant minuit, renvoie chez eux la plupart des ennuyeux gens fort rangés, et elle recevait de minuit à 2 heures. Octave sortait toujours le dernier du salon de Madame de Bonnivet et crevait ses chevaux pour arriver plus tôt chez Madame d'Aumale, qui habitait la chaussée d'Antin. Là, il trouvait une femme qui remerciait le ciel de sa haute naissance et de sa fortune, uniquement à cause du privilège qu'elle en tirait de faire à chaque minute de la journée ce que lui inspirait le caprice du moment. À la campagne, à minuit, quand tout le monde quitte le salon, Madame d'Aumale remarquait-elle, en traversant le vestibule, un temps doux et un clair de lune agréable. Elle prenait le bras du jeune homme, qui ce soir-là lui semblait le plus amusant, et allait courir les bois. Un sot se proposait-il pour la suivre dans sa promenade, elle le priait sans façon de se diriger d'un autre côté. Mais le lendemain, pour peu que son promeneur de la veille l'eût ennuyé, elle ne lui reparlait pas. Il faut convenir qu'en présence d'un esprit aussi vif, au service d'une aussi mauvaise tête, il était fort difficile de ne pas paraître un peu terne. C'est ce qui fit la fortune d'Octave. La partie amusante de son caractère était parfaitement invisible aux gens qui, avant que d'agir, songent toujours à un modèle à suivre et aux convenances. En revanche, personne ne devait y être plus sensible que la plus jolie femme de Paris, toujours courant après quelque idée nouvelle qui pût lui faire passer la soirée d'une manière piquante. Octave suivait partout Madame d'Aumale, et par exemple au théâtre italien. Pendant les 2 ou 3 dernières représentations de Madame Pasta, où la mode avait amené tout Paris, il se donna la peine de parler très haut à la jeune comtesse, et de façon à troubler entièrement le spectacle. Madame d'Aumale, amusée par ce qu'il lui disait, fut ravie de l'air simple avec lequel il était impertinent. Rien ne semblait de plus mauvais goût à Octave, mais il commençait à ne se point mal tirer des sottises. La double attention qu'en se permettant une chose ridicule, il donnait malgré lui à l'impertinence qu'il faisait et à la démarche sage dont elle prenait la place, mettait dans ses yeux un certain feu qui amusait Madame d'Aumale. Octave trouvait plaisant de faire répéter partout qu'il était amoureux fou de la comtesse, et de ne jamais rien dire à cette jeune et charmante femme avec laquelle il passait sa vie, qui ressembla le moins du monde à de l'amour. Madame de Malivert, étonnée de la conduite de son fils, alla quelquefois dans les salons où il se trouvait à la suite de Madame d'Aumale. Un soir, en sortant de chez Madame de Bonnivet, elle la pria de lui céder Armance pour la journée du lendemain. « J'ai beaucoup de papiers à mettre en ordre, et il me faut les yeux de mon Armance. » Le lendemain, dès 11 heures du matin, avant le déjeuner, ainsi qu'on en était convenu, la voiture de Madame de Malivert vint chercher Armance. Ces dames déjeunèrent seules. Quand la femme de chambre de Madame de Malivert les quitta, Souvenez-vous, dit sa maîtresse, que je n'y suis pour personne, pas plus pour Octave que pour monsieur de Malivert. Elle poussa la précaution jusqu'à fermer elle-même le verrou de son antichambre. Quand elle fut bien établie dans sa bergère, et Armance assise devant elle sur sa petite chaise, « Ma petite, lui dit-elle, je vais te parler d'une chose à laquelle je suis décidée depuis longtemps. Tu n'as que 100 louis de rente. Voilà tout ce que mes ennemis pourront dire contre le désir passionné que j'ai de te faire épouser mon fils. » En disant ces mots, madame de Malivert se jeta dans les bras d'Armance. Ce moment fut le plus beau de la vie de cette pauvre fille. De douces larmes inondaient son visage.
Chapitre 12. Estavas linda Inés posta en sosiego de teus años coliendo dolce fruto naquelle enganno da alma ledo e ciego que a fortuna nau deixe durar muito. Us Lusiadas, canto 3.
Mais, chère maman, dit Armance longtemps après et lorsqu'on eut repris un peu la faculté de parler raison, Octave ne m'a jamais dit qu'il me fût attaché comme il me semble qu'un mari doit l'être à sa femme. S'il ne fallait pas me lever pour te conduire devant un miroir, répondit madame de Malivert, je te ferai voir tes yeux brillants de bonheur en ce moment et je te prierai de me redire que tu n'es pas sûre du cœur d'Octave. J'en suis sûre, moi, qui ne suis que sa mère. Au reste, je ne me fais point illusion sur les défauts que peut avoir mon fils. Et je ne veux pas de ta réponse avant 8 grands jours. Je ne sais si c'est au sang sarmate qui circulait dans ses veines ou à ses malheurs si précoces qu'Armance devait la faculté d'apercevoir, d'un coup d'œil, tout ce qu'un changement soudain dans la vie renfermait de conséquences. Et que cette nouvelle position des choses pût décider de son sort ou de celui d'un homme différent, elle en voyait les suites avec la même netteté. Cette force de caractère ou d'esprit lui valait à la fois les confidences de tous les jours et les réprimandes de madame de Bonnivet. La marquise la consultait volontiers sur ses projets les plus intimes, et dans d'autres moments, avec cet esprit-là, lui disait-elle. Une jeune fille n'est jamais bien. Après le premier moment de bonheur et de profonde reconnaissance, Armance pensa qu'elle ne devait rien dire à madame de Malivert de la fausse confidence qu'elle avait faite à Octave relativement à un prétendu mariage. Madame de Malivert n'a pas consulté son fils, pensa-t-elle, ou bien il lui a caché l'obstacle qui s'oppose à son dessein. Cette seconde possibilité jeta beaucoup de sombre dans l'âme d'Armance. Elle voulait croire qu'Octave n'avait pas d'amour pour elle. Chaque jour, elle avait besoin de cette certitude pour justifier à ses propres yeux bien des prévenances que se permettait sa tendre amitié. Et cependant, cette preuve terrible de l'indifférence de son cousin, qui lui arrivait tout à coup, accablait son cœur d'un poids énorme et lui ôtait jusqu'à la force de parler. Par combien de sacrifices Armance n'eût-elle pas acheté en cet instant le pouvoir de pleurer en liberté? « Si ma cousine surprend une larme dans mes yeux, se disait-elle, quelles conséquences décisives ne se croirait-elle pas en droit d'en tirer? Qui sait même si, dans son empressement pour ce mariage, elle ne citera pas mes larmes à son fils, comme une preuve que je réponds à sa prétendue tendresse. » Madame de Malivert ne fut point étonnée de l'air de rêverie profonde qui s'empara d'Armance à la fin de cette journée. Ces dames retournèrent ensemble à l'hôtel de Bonnivet, et quoiqu'Armance n'eût pas vu son cousin de toute la journée, même sa présence, quand elle l'aperçut dans le salon, ne put l'arracher à sa noire tristesse. À peine lui répondait-elle. Elle n'en avait pas la force. Sa préoccupation parut évidente à Octave, non moins que son indifférence pour lui. Il lui dit tristement, « Aujourd'hui, vous n'avez pas le temps de songer que je suis votre ami. » Pour toute réponse, Armance le regarda fixement, et ses yeux prirent, sans qu'elle y songeât, cette expression sérieuse et profonde qui lui valait de si belles morales de la part de sa tante. Ce mot d'Octave lui perçait le cœur. Il ignorait donc la démarche de sa mère, ou plutôt n'y prenait aucun intérêt, et ne voulait être qu'ami. Quand, après avoir vu partir la société et reçu les confidences de madame de Bonnivet sur l'état où se trouvaient tous ses divers projets, Armance put enfin se voir seule dans sa petite chambre. Elle se trouva en proie à la plus sombre douleur. Jamais elle ne s'était sentie aussi malheureuse. Jamais vivre ne lui avait fait tant de mal. Avec quelle amertume ne se reprocha-t-elle pas les romans dans lesquels elle laissait quelquefois son imagination s'égarer. Dans ces moments heureux, elle osait se dire « Si j'étais née avec de la fortune et qu'Octave eût pu me choisir pour la compagne de sa vie, d'après son caractère tel que je le connais, il eût rencontré plus de bonheur auprès de moi qu'auprès d'aucune autre femme au monde. » Elle payait cher maintenant ses suppositions dangereuses. La profonde douleur d'Armance ne diminua point les jours suivants. Elle ne pouvait s'abandonner un instant à la rêverie sans arriver au plus parfait dégoût de toute chose. Et elle avait le malheur de sentir vivement son état. Les obstacles étrangers à un mariage, auquel, dans toutes les suppositions, elle n'eût jamais consenti, semblaient s'aplanir. Mais le cœur seul d'Octave n'était point pour elle. Madame de Malivert, après avoir vu naître la passion de son fils pour Armance, avait été alarmée de ses assiduités auprès de la brillante comtesse d'Aumale. Mais il lui avait suffi de les voir ensemble pour deviner que cette relation était un devoir que la bizarrerie de son fils s'était imposée. Madame de Malivert savait bien que si elle l'interrogeait à cet égard, il lui répondrait par la vérité. Mais elle s'était soigneusement abstenue des questions même les plus indirectes. Ses droits ne lui semblaient pas aller jusque-là. Par égard pour ce qu'elle croyait devoir à la dignité de son sexe, elle avait voulu parler de ce mariage à Armance avant de s'en ouvrir avec son fils, de la passion duquel elle était sûre. Après avoir fait part de son projet à mademoiselle de Zoïlov, madame de Malivert s'arrangea pour se trouver des heures entières dans le salon de madame de Bonnivet. Elle crut voir qu'il se passait quelque chose d'étrange entre Armance et son fils. Armance était évidemment fort malheureuse. « Serait-il possible, se dit madame de Malivert, qu'Octave, qui l'adore et la voit sans cesse, ne lui eût jamais dit qu'il l'aime ?» Le jour où mademoiselle de Zoïlov devait donner sa réponse était arrivé. Le matin, de bonne heure, madame de Malivert lui envoya sa voiture et un petit billet par lequel elle la priait de venir passer une heure avec elle. Armance arriva avec la physionomie qu'on a après une longue maladie. Elle n'eut pas eu la force de venir à pied. Dès qu'elle fut seule avec madame de Malivert, elle lui dit avec une douceur parfaite, au fond de laquelle on entrevoyait cette fermeté que donne le désespoir. « Mon cousin a de l'originalité dans le caractère. Son bonheur exige, et peut-être le mien, ajouta-t-elle en rougissant beaucoup, que jamais mon adorable maman ne lui parle d'un projet que lui a inspiré son extrême prévention en ma faveur. » Madame de Malivert affecta d'accorder avec beaucoup de peine son consentement à ce qu'on lui demandait. « Je puis mourir plus tôt que je ne le pense, » disait-elle à Armance, « et alors mon fils n'obtiendra pas la seule femme au monde qui puisse adoucir le malheur de son caractère. Je suis sûre que c'est la raison d'argent qui te décide, » disait-elle en d'autres moments. Octave, qui a sans cesse quelque confidence à te faire, n'a pas été dupe au point de ne pas t'avouer ce dont je suis sûre. C'est qu'il t'aime avec toute la passion dont il est capable. Et c'est beaucoup dire, mon enfant. Si certains moments d'exaltation, qui deviennent plus rares tous les jours, peuvent donner lieu à quelques objections contre le caractère du mari que je t'offre, tu auras la douceur d'être aimée comme peu de femmes le sont aujourd'hui. Dans les temps orageux qui peuvent survenir, la fermeté de caractère chez un homme sera une grande probabilité de bonheur pour sa famille. Tu sais toi-même, mon Armance, que les obstacles extérieurs qui écrasent les hommes vulgaires ne sont rien pour Octave. Si son âme est paisible, le monde entier ligué contre lui ne lui donnerait pas un quart d'heure de tristesse. Or, je suis certaine que la paix de son âme dépend de ton consentement. Juge toi-même de l'ardeur avec laquelle je dois le solliciter. De toi dépend le bonheur de mon fils. Depuis 4 ans, je pense jour et nuit au moyen de l'assurer. Je n'avais pu le découvrir. Enfin, il t'a aimé. Quant à moi, je serai la victime de ta délicatesse excessive. Tu ne veux pas encourir le blâme d'épouser un mari beaucoup plus riche que toi, et je mourrai avec les plus grandes inquiétudes sur l'avenir d'Octave, et sans avoir vu mon fils uni à la femme que, de ma vie, j'ai le plus estimée. » Ces assurances de l'amour d'Octave étaient déchirantes pour Armance. Madame de Malivert remarquait dans les réponses de sa jeune parente un fond d'irritation et de fierté blessée. Le soir, chez madame de Bonnivet, elle observa que la présence de son fils n'ôtait point à mademoiselle de Zoïloff cette sorte de malheur qui vient de la crainte de n'avoir pas eu assez d'orgueil envers ce qu'on aime et d'avoir peut-être ainsi perdu de son estime. « Est-ce une fille pauvre et sans famille ?» se disait Armance, « qui doit tomber dans ces sortes d'oublis ?» Madame de Malivert elle-même était fort inquiète. Après bien des nuits passées sans sommeil, elle s'arrêta enfin à l'idée singulière, mais probable à cause de l'étrange caractère de son fils, que réellement, ainsi qu'Armance l'avait dit, il ne lui avait point parlé de son amour. « Est-il possible, pensait madame de Malivert, qu'Octave soit timide à ce point? Il aime sa cousine. Elle est la seule personne au monde qui puisse le garantir des accès de mélancolie qui m'ont fait trembler pour lui. » Après y avoir bien réfléchi, elle prit son parti. Un jour, elle dit à Armance d'un ton assez indifférent. « Je ne sais pas ce que tu as fait à mon fils afin de le décourager, mais tout en m'avouant qu'il a pour toi l'attachement le plus profond, l'estime la plus parfaite, et qu'obtenir ta main serait à ses yeux le premier des biens, il ajoute que tu opposes un obstacle invincible à ses vœux les plus chers, et que certainement il ne voudrait pas te devoir aux persécutions que nous te ferions subir en sa faveur. »
Chapitre 13. Ay, que ya siento en mi cuidoso pecho labrarme poco a poco un vivo fuego, y desde allí con movimiento blando por venas y huesos penetrando. Araucana, canto 22.
L'extrême bonheur qui se peignit dans les yeux d'Armance consola madame de Malivert, qui sentait bien quelque remords de mêler un petit mensonge à une négociation aussi grave. « Après tout, se disait-elle, quel mal peut-il y avoir de hâter le mariage de deux enfants charmants, mais un peu fiers, et qui ont l'un pour l'autre une passion telle qu'on en voit si rarement dans le monde. Conserver la raison de mon fils, n'est-ce pas mon premier devoir ?» Le singulier parti auquel venait de se résoudre madame de Malivert avait délivré Armance de la plus profonde douleur qu'elle eût éprouvée de sa vie. Un peu auparavant, elle désirait la mort, et ce mot, qu'on supposait prononcé par Octave, la plaçait au comble de la félicité. Elle était bien résolue à ne jamais accepter la main de son cousin. Mais ce mot charmant lui permettait de nouveau l'espoir de bien des années de bonheur. « Je pourrais l'aimer en secret, se disait-elle, pendant les 6 années qui s'écouleront avant son mariage, et je serai aussi heureuse, et peut-être bien plus, que si j'étais sa compagne. » Ne dit-on pas que le mariage est le tombeau de l'amour, qu'il peut y avoir des mariages agréables, mais qu'il n'en est aucun de délicieux? Je tremblerais d'épouser mon cousin. Si je ne le voyais pas le plus heureux des hommes, je serais moi-même au comble du désespoir. Vivant au contraire dans notre pure et sainte amitié, aucun des petits intérêts de la vie ne pourra jamais atteindre à la hauteur de nos sentiments et venir les flétrir. » Armance pesa, avec tout le calme du bonheur, les raisons qu'elle s'était données autrefois pour ne jamais accepter la main d'Octave. « Je passerai dans le monde pour une dame de compagnie qui a séduit le fils de la maison. J'entends d'ici ce que dirait madame la duchesse d'Ancre, et même les femmes les plus respectables. Par exemple, la marquise de Cessin, qui voit dans Octave un époux pour l'une de ses filles. La perte de ma réputation serait d'autant plus rapide que j'ai vécu dans l'intimité de plusieurs des femmes les plus accréditées de Paris. Elles peuvent tout dire sur mon compte, elles seront crues. Ciel, dans quel abîme de honte elles peuvent me précipiter. Et Octave pourrait un jour m'ôter son estime, car je n'ai aucun moyen de défense. Où est le salon où je pourrais élever la voix? Où sont mes amis? Et d'ailleurs, d'après la bassesse évidente d'une telle action, quelle justification serait possible? Quand j'aurais une famille, un frère, un père, croirait-il jamais que si Octave était à ma place et moi fort riche, je lui serais aussi dévouée que je le suis en ce moment? Armance avait une raison pour sentir vivement le genre d'indélicatesse qui a rapport à l'argent. Fort peu de jours auparavant, Octave lui avait dit, à propos d'une certaine majorité qui fit du bruit, « J'espère, quand j'aurai pris ma place dans la vie active, ne pas me laisser acheter comme ces messieurs. Je puis vivre avec 5 francs par jour, et sous un nom supposé, il m'est possible en tout pays de gagner le double de cette somme, en qualité de chimiste attaché à quelque manufacture. » Armance était si heureuse qu'elle ne se refusa l'examen d'aucune objection, quelque périlleuse qu'en fût la discussion. Si Octave me préférait à la fortune et à l'appui qu'il peut attendre de la famille d'une épouse, son égale pour le rang, nous pourrions aller vivre dans la solitude. Pourquoi ne pas passer 10 mois de l'année dans cette jolie terre de Malivert, en Dauphiné, dont il me parle souvent? Le monde nous oublierait bien vite. Oui, mais moi, je n'oublierai pas qu'il est un lieu sur la terre où je suis méprisée, et méprisée par les âmes les plus nobles. Voir l'amour s'éteindre dans le cœur d'un époux qu'on adore est le plus grand de tous les malheurs pour une jeune personne née avec de la fortune. Eh bien, ce malheur si affreux ne serait encore rien pour moi. Même quand il continuerait à me chérir, chaque jour serait empoisonné par la crainte qu'Octave ne vint à penser que je l'ai préféré à cause de la différence de nos fortunes. Cette idée ne se présentera pas à lui, je veux le croire. Des lettres anonymes comme celles qu'on adresse à madame de Bonnivet viendront la mettre sous ses yeux. Je tremblerai à chaque paquet qu'il recevra de la poste. Non. Quoi qu'il puisse arriver, il ne faut jamais accepter la main d'Octave. Et le parti commandé par l'honneur est aussi le plus sûr pour notre bonheur. Le lendemain du jour, qui fut si heureux pour Armance, mesdames de Malivert et de Bonnivet allèrent s'établir dans un joli château, caché dans les bois, qui couronne les hauteurs d'Andilly. Les médecins de madame de Malivert lui avait recommandé des promenades à cheval et au pas. Et dès le lendemain de son arrivée à Andilly, elle voulut essayer 2 charmants petits poneys qu'elle avait fait venir d'Écosse pour Armance et pour elle. Octave accompagna ces dames dans leur première promenade. On avait à peine fait 1/4 de lieue qu'il crut remarquer un peu plus de réserve dans les manières de sa cousine à son égard, et surtout une disposition marquée à la gaieté. Cette découverte lui donna beaucoup à penser, et ce qu'il observa pendant le reste de la promenade le confirma dans ses soupçons. Armance n'était plus la même pour lui. Il était clair qu'elle allait se marier, il allait perdre le seul ami qu'il eût au monde. En aidant Armance à descendre de cheval, il trouva l'occasion de lui dire, sans être entendu de madame de Malivert, « Je crains bien que ma jolie cousine ne change bientôt de nom. Cet événement va m'enlever la seule personne au monde qui voulut bien m'accorder quelque amitié. Jamais, lui dit Armance, je ne cesserai d'avoir pour vous l'amitié la plus dévouée et la plus exclusive. Mais pendant qu'elle prononçait rapidement ces mots, il y avait tant de bonheur dans ses yeux qu'Octave, prévenu, y vit la certitude de toutes ses craintes. La bonté, l'air d'intimité, en quelque sorte, qu'Armance eut avec lui pendant la promenade du lendemain, achevèrent de lui ôter toute tranquillité. « Je vois, se disait-il, un changement décidé dans la manière d'être de mademoiselle de Zoïlov. Elle était fort agitée il y a quelques jours, elle est maintenant fort heureuse. J'ignore la cause de ce changement, donc il ne peut être que contre moi. » Qui eut jamais la sottise de choisir pour amie intime une jeune fille de 18 ans? Elle se marie et tout est fini. C'est mon exécrable orgueil qui fait que je mourrais plutôt 1000 fois que d'oser dire à un homme ce que je confie à mademoiselle de Zoïlov. Le travail pourrait être une ressource, mais n'ai-je pas abandonné toute occupation raisonnable? À vrai dire, depuis 6 mois, tâcher de me rendre aimable aux yeux d'un monde égoïste et plat, n'est-ce pas mon seul travail? Pour se livrer au moins à ce genre de gêne utile, tous les jours, après la promenade de sa mère, Octave quittait Andilly et venait faire des visites à Paris. Il cherchait des habitudes nouvelles pour occuper le vide que laisserait dans sa vie cette charmante cousine quand elle quitterait sa société pour suivre son mari. Cette idée lui donnait le besoin d'un exercice violent. Plus son cœur était serré de tristesse, plus il parlait et cherchait à se plaire. Ce qu'il redoutait, c'était de se trouver seul avec lui-même. C'était surtout la vue de l'avenir. Il se répétait sans cesse « J'étais un enfant de choisir une jeune fille pour amie. » Ce mot, par son évidence, devint bientôt une sorte de proverbe à ses yeux, et l'empêcha de pousser plus avant ses recherches dans son propre cœur. Armance, qui voyait sa tristesse, en était attendrie et se reprochait souvent la fausse confidence qu'elle lui avait faite. Il ne se passait pas 2 jours qu'en le voyant partir pour Paris, elle ne fût tentée de lui dire la vérité. « Mais ce mensonge fait toute ma force contre lui, » se disait-elle. « Si je lui avoue seulement que je ne suis pas engagée, il me suppliera de céder aux vœux de sa mère, et comment résister? Cependant, jamais et sous aucun prétexte, je ne dois consentir. Non, ce mariage prétendu avec un inconnu que je préfère est ma seule défense contre un bonheur qui nous perdrait tous deux. » Pour dissiper la tristesse de ce cousin trop chéri, Armance se permettait avec lui les petites plaisanteries de l'amitié la plus tendre. Il y avait tant de grâce et de gaieté naïve dans les assurances d'éternelle amitié de cette jeune fille, si naturelle dans toutes ses actions, que souvent la noire misanthropie d'Octave en était désarmée. Il était heureux en dépit de lui-même. Et dans ces moments, rien aussi ne manquait au bonheur d'Armance. « Qu'il est doux, se disait-elle, de faire son devoir. Si j'étais l'épouse d'Octave, « moi, fille pauvre et sans famille, serais-je aussi contente ? 1000 soupçons cruels m'assiégeraient sans cesse. Mais après ces moments où elle était si satisfaite d'elle-même et des autres, Armance finissait par traiter Octave mieux qu'elle n'aurait voulu. Elle veillait bien sur ses paroles, et jamais ses paroles n'exprimaient autre chose que la plus sainte amitié. Mais le ton dont certains mots étaient dits, les regards qui quelquefois les accompagnaient. Tout autre qu'Octave eût su y voir l'expression de la passion la plus vive. Il en jouissait, sans les comprendre. Dès qu'il pouvait songer sans cesse à sa cousine, sa pensée ne s'arrêtait plus avec passion sur rien autre au monde. Il redevint juste et même indulgent, et son bonheur lui fit déserter ses raisonnements sévères sur bien des choses. Les sots ne lui semblait plus que des êtres malheureusement nés. « Est-ce la faute d'un homme s'il a les cheveux noirs ? » disait-il à Armance. Mais c'est à moi de fuir soigneusement cet homme si la couleur de ses cheveux me fait mal. Octave passait pour méchant dans quelques sociétés, et les sots avaient de lui une peur instinctive. À cette époque, ils se réconcilièrent avec lui. Souvent, il portait dans le monde tout le bonheur qu'il devait à sa cousine. On le craignit moins, on trouva son amabilité plus jeune. Il faut avouer que dans toutes ces démarches, il y avait un peu de l'enivrement que donne ce genre de bonheur que l'on ne s'avoue pas à soi-même. La vie coulait pour lui rapidement et avec délices. Ses raisonnements sur lui-même ne portaient plus l'empreinte de cette logique inexorable, dure, et se complaisant dans sa dureté, qui, pendant sa première jeunesse, avait dirigé toutes ses actions. Prenant souvent la parole sans savoir comment il finirait sa phrase, il parlait beaucoup mieux.
Chapitre 14. Il giovine cuore, o non vede affatto defette di chi li sta vicino, o li vede immensi. Error comuni ai giovinetti che portano fuoco nell'interno dell'anima. Lampugnani.
Un jour, Octave apprit à Paris qu'un des hommes qu'il voyait le plus souvent et avec le plus d'agrément, qu'un de ses amis, comme on dit dans le monde, devait la belle fortune qu'il dépensait avec grâce à l'action la plus basse à ses yeux, un héritage capté. Mademoiselle de Zoïlov, à laquelle il se hâta, dès son arrivée à Andilly, de faire part de cette fâcheuse découverte, trouva qu'il la supportait fort bien. Il n'eut point d'accès de misanthropie. Il ne voulut point rompre outrageusement avec cet homme. Un autre jour, il revint de fort bonne heure d'un château de Picardie où il devait passer toute la soirée. « Que ces conversations sont insipides !» dit-il à Armance. Toute la chasse, la beauté de la campagne, la musique de Rossini, les arts, et encore ils mentent en s'y intéressant. Ces gens ont la sottise d'avoir peur. Ils se croient dans une ville assiégée et s'interdisent de parler des nouvelles du siège. La pauvre espèce, et que je suis contrariée d'en être. Eh bien, allez voir les assiégeants, dit Armance. Leurs ridicules vous aideront à supporter ceux de l'armée au milieu de laquelle vous a jeté votre naissance. C'est une grande question, dit Octave. Dieu sait si je souffre quand je vois dans un de nos salons un de nos amis ouvrir un avis, ou absurde ou cruel. Mais enfin, je puis me taire avec honneur. Ma douleur est tout invisible. Mais si je me fais présenter au banquier Martigny... Eh bien, dit Armance, cet homme si fin, si spirituel, si esclave de sa vanité, vous recevra à bras ouverts. Sans doute, mais de mon côté, quelque modéré, quelque modeste, quelque silencieux que je cherche à me faire, je finirai par exprimer mon avis sur quelque chose ou sur quelqu'un. Une seconde après, la porte du salon s'ouvre avec fracas. On annonce monsieur un tel fabricant à... qui d'une voix de stentor s'écrie dès la porte. « Croiriez-vous, mon cher Martigny, qu'il y a des ultras assez bêtes, assez plats, assez stupides pour dire que... » Et là-dessus, ce brave fabricant répète, mot pour mot, le petit bout d'opinion que je viens d'énoncer en toute modestie. « Que faire ? Ne pas entendre. Tel serait mon goût. Je ne suis pas en ce monde pour corriger les manières grossières, ni les esprits de travers. Encore moins veux-je donner à cet homme, en lui parlant, le droit de me serrer la main dans la rue quand il me rencontrera. Mais dans ce salon, j'ai le malheur de ne pas être exactement comme un autre. Plût à Dieu que je puisse y trouver l'égalité, dont ces messieurs font tant de bruit. Par exemple, que voulez-vous que je fasse du titre que je porte quand on m'annonce chez monsieur Martigny? Mais vous avez le projet de quitter ce titre, si jamais vous le pouvez sans choquer monsieur votre père. Sans doute, mais l'oubli de ce titre, en disant mon nom au laquais de monsieur Martigny, n'aurait-il pas l'air d'une lâcheté? C'est comme Rousseau qui appelait son chien Turc au lieu de Duc, parce qu'il y avait un duc dans la chambre. Mais l'on ne hait pas tant les titres chez les banquiers libéraux, dit Armance. L'autre jour, Madame de Clay, qui va partout, s'est trouvée au bal de Monsieur Monlange. Et vous savez bien que le soir, elle nous a fait rire en prétendant qu'ils aiment tant les titres qu'elle avait entendu annoncer. Madame la colonelle. Depuis que la machine à vapeur est la reine du monde, un titre est une absurdité. Mais enfin, je suis affublée de cette absurdité. Elle m'écrasera si je ne la soutiens. Ce titre attire l'attention sur moi. Si je ne réplique pas à cette voix tonnante du fabricant qui crie dès la porte que ce que je viens de dire est une ânerie, quelques regards ne me chercheront-ils pas? Telle est la faiblesse de mon caractère. Je ne puis secouer les oreilles et me moquer de tout, comme le veut Madame d'Aumale. Si j'aperçois ces regards, tout plaisir va me fuir pour le reste de la soirée. La discussion qui s'établira au-dedans de moi, pour savoir si l'on a voulu m'insulter, peut m'ôter la paix de l'âme pour 3 jours. « Mais êtes-vous bien sûr, dit Armance, de cette prétendue grossièreté de manière dont vous gratifiez si généreusement le parti contraire? N'avez-vous pas vu l'autre jour que les enfants de Talma et les fils d'un duc sont élevés dans le même pensionnat? Ce sont les hommes de 45 ans, enrichis pendant la Révolution, qui tiennent le dé dans les salons, et non les camarades des enfants de Talma. Je gagerais qu'ils ont plus d'esprit que beaucoup des nôtres. Qui est-ce qui brille dans la chambre des pères? L'autre jour, vous-même, vous en faisiez la remarque douloureuse. Ah, si je donnais encore des leçons de logique à ma jolie cousine, comme je me moquerais d'elle! Que me fait l'esprit d'un homme? Ce sont ses manières qui peuvent me donner de la tristesse. L'homme le plus sot parmi nous, Monsieur de, par exemple, peut être fort ridicule, mais il n'est jamais offensant. L'autre jour, je racontais chez les d'Aumale mon petit voyage à Liancourt. Je parlais des dernières machines que le bon duc a fait venir de Manchester. Un homme qui était là dit tout un coup « Ça n'est pas fa n'est pas vrai !» Je m'assurai qu'il ne voulait pas me donner un démenti, mais cette grossièreté m'a rendu muet pour une heure. « Et cet homme était banquier ?»« Il n'était pas des nôtres. Ce qu'il y a de plaisant, c'est que j'ai écrit au contremaître de la carderie de Liancourt. » Et il se trouve que mon homme au démenti n'a pas même raison. Je ne trouve point que Monsieur Montange, le jeune banquier qui vient chez Madame de Clay, ait des manières rudes. Il les a mielleuses. C'est une métamorphose des manières, rudes quand elles ont peur. Leur femme me semble bien jolie, reprit Armance. Je voudrais savoir si leur conversation est gâtée par cette nuance de haine ou de dignité qui craint qu'on la blesse, qui se montre quelquefois parmi nous. Ah, que je voudrais qu'un bon juge comme mon cousin pût me raconter ce qui se passe dans ces salons-là. Quand je vois les dames banquières dans leur loge au théâtre italien, je meurs d'envie d'entendre ce qu'elles se disent et de me mêler à leur conversation. Si j'en aperçois une jolie, et il y en a de charmantes, je meurs d'envie de lui sauter au cou. Tout cela vous paraîtra de l'enfantillage. Mais à vous, monsieur le philosophe, si fort sur la logique, je vous dirai. Comment connaître les hommes si vous ne voyez qu'une classe? Et la classe la moins énergique, parce qu'elle est la plus éloignée des besoins réels. Et la classe qui a le plus d'affectation, parce qu'elle se croit regardée. Avouez que pour un philosophe, il est beau de fournir des arguments à son adversaire, dit Octave en riant. Croiriez-vous que hier, chez les Saint-Imier, monsieur le marquis de, qui l'autre jour, ici, se moquait tant des petits journaux dont il prétendait ignorer jusqu'à l'existence, était aux anges parce que l'aurore donne une plaisanterie sale contre son ennemi, monsieur le comte de, qui vient d'être fait conseiller d'État? Il avait le numéro dans sa poche. C'est un des malheurs de notre position, voir des sots faire les mensonges les plus ridicules et n'oser leur dire. Beau masque, je te connais. Il faut nous priver des plaisanteries les plus gaies, parce qu'elles pourraient faire rire le parti contraire s'il les entendait. « Je ne connais les banquiers, dit Armance, que par notre doucereux Montange et par la charmante comédie du roman. Mais je doute que pour le fond de l'adoration de l'argent, il l'emporte sur certains des nôtres. Savez-vous qu'il est dur de prendre l'entreprise de la perfection de toute une classe ? Je ne vous parlerai plus du plaisir que j'aurais à savoir des nouvelles de ces dames. Mais, comme disait le vieux duc de... à Pétersbourg, quand il faisait venir le journal de l'Empire à si grands frais et au risque de choquer l'empereur Alexandre, ne faut-il pas lire le mémoire de sa partie adverse ? Je vous dirai bien plus, mais avec confidence. Comme dit si bien Talma dans Polyeucte, au fond, vous et moi, nous ne voulons certainement pas vivre avec ces gens-là, mais sur beaucoup de questions, nous pensons comme eux. Et il est triste à notre âge, reprit Armance, de se résoudre à être toute sa vie du parti battu. Nous sommes comme les prêtres des idoles du paganisme, au moment où la religion chrétienne allait l'emporter. Nous persécutons encore aujourd'hui. Nous avons encore la police et le budget pour nous. Mais demain, peut-être, nous serons persécutés par l'opinion. Vous nous faites bien de l'honneur de nous comparer à ces bons prêtres du paganisme. Je vois quelque chose de plus faux dans notre position, à vous et à moi. Nous ne sommes de ce parti que pour en partager les malheurs. Il est trop vrai. Nous voyons ces ridicules sans oser en rire, et ces avantages nous pèsent. Que me fait l'ancienneté de mon nom ? Il faudrait me gêner pour tirer parti de cet avantage. Les discours des jeunes gens de votre espèce vous donnent quelquefois envie de hausser les épaules, et de peur de céder à la tentation, vous vous hâtez de parler du bel album de Mademoiselle de Clay ou du chant de Madame Pasta. D'un autre côté, votre titre et les manières peut-être un peu raboteuses des gens qui pensent comme vous sur les trois quarts des questions vous empêchent de les voir. Ah, que je voudrais commander un canon ou une machine à vapeur. Que je serais heureux d'être un chimiste attaché à quelque manufacture. Car peu m'importe la rudesse des manières, on s'y fait en 8 jours. Outre que vous n'êtes point si sûr qu'elle soit si rude, dit Armance. Le fût-elle 10 fois plus, reprit Octave. Cela a le piquant de jouer la langue étrangère. Mais il faudrait s'appeler Monsieur Martin ou Monsieur Lenoir. Ne pourriez-vous pas trouver un homme de sens qui eût fait une campagne de découverte dans les salons libéraux ? Plusieurs de mes amis vont danser. Ils disent que les glaces y sont parfaites, et voilà tout. Un beau jour, je me hasarderai moi-même, car rien de sot comme de penser 1 an de suite à un danger qui peut-être n'existe pas. Armance finit par obtenir l'aveu qu'il avait songé à un moyen pour paraître dans les sociétés où c'est la richesse qui donne le pas et non la naissance. « Eh bien, oui, je l'ai trouvé, » disait Octave. « Mais le remède serait pire que le mal, car il me coûterait plusieurs mois de ma vie qu'il me faudrait passer loin de Paris. »« Quel est ce moyen ?» dit Armance, devenue tout à coup fort sérieuse. J'irai à Londres. J'y verrai naturellement tout ce qu'il y a de distingué dans la haute société. Comment aller en Angleterre et ne pas se faire présenter au marquis de Lansdowne, à M. Brougham, à Lord Holland? Ces messieurs me parleront de nos gens célèbres de France. Ils s'étonneront de ce que je ne les connais pas. J'en témoignerai beaucoup de regrets. Et à mon tour, je me ferai présenter à tout ce qu'il y a de populaire en France. Ma démarche, si l'on me fait l'honneur d'en parler chez la duchesse d'Ancre, n'aura point l'air d'une désertion des idées que l'on peut croire inséparable de mon nom. Ce serait tout simplement le désir bien naturel de connaître les gens supérieurs du siècle où l'on vit. Je ne me pardonnerai jamais de n'avoir pas vu monsieur le général Foy. Armance se taisait. N'est-ce pas une chose humiliante ? Reprit Octave. Que tous nos soutiens, et enfin jusqu'aux écrivains monarchiques chargés de prôner tous les matins dans le journal les avantages de la naissance et de la religion, nous soit fournie par cette classe qui a tous les avantages, excepté la naissance. Ah, si monsieur de Soubirane vous entendait! Ne m'attaquez pas sur le plus grand de mes malheurs, être obligé de mentir toute la journée. Le ton de l'intimité parfaite tolère des parenthèses à l'infini, qui plaisent parce qu'elles prouvent une confiance sans bornes, mais peuvent fort bien ennuyer un tiers. Il nous suffit d'avoir indiqué que la position brillante du vicomte de Malivert était bien loin d'être pour lui une source de plaisir sans mélange. Ce n'est pas sans danger que nous aurons été historiens fidèles. La politique venant couper un récit aussi simple peut faire l'effet d'un coup de pistolet au milieu d'un concert. Ensuite, Octave n'est point un philosophe, et il a caractérisé fort injustement les deux nuances qui, de son temps, divisaient la société. Quel scandale qu'Octave ne raisonne pas comme un sage de 50 ans!